Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là et qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Je pense qu'on peut le confirmer, le temps des sucres est bel et bien commencé et au plus grand bonheur des familles québécoises, des acériculteurs aussi qui vous recevront dans les prochaines semaines dans leur cabane à sucre. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'au-delà du plaisir que le sirop d'érable procure dans notre bouche, il y a aussi, et données scientifiques à l'appui, plusieurs bénéfices pour la santé. Bien sûr, c'est pas mal non plus, hein, c'est pas pour nous déplaire cette nouvelle. Et en deuxième partie d'émission, Marie Breton, elle, diététiste, auteure conférencière, sera là pour nous donner plus de détails sur cette excellente nouvelle. Mais d'abord, tous les jours ou presque, je pense que vous vous posez des questions sur votre alimentation, hein? Des questions aussi simples que qu'est-ce qu'on mange pour souper ou est-ce que ma quantité de fruits et de légumes est suffisante? Est-ce que je mange trop de sucre? Est-ce qu'il me manque certains nutriments? Est-ce que je devrais me tourner vers le bio? Et c'est normal tout ça parce que manger, se nourrir, c'est vital. Ce que l'on oublie plus souvent peut-être, c'est que nos choix alimentaires, ils ont un impact direct sur l'environnement, sur la pollution, sur le gaspillage aussi, sur la disparition de certaines espèces. Et j'en parle à l'instant avec le nutritionniste Bernard Lavallée qui vient tout juste de publier un livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois » aux éditions La Presse. Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir encore une fois.
Merci beaucoup.
Mais là, pour une excellente nouvelle.
Une grosse nouvelle,
oui,
quand même.
Oui, quelque chose que vous couviez depuis longtemps, ce livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois », qui est déjà qui est sorti, quoi, lundi?
Oui, lundi.
Assez récent et déjà un grand, grand succès en librairie. Bravo, Bernard.
Merci, merci beaucoup.
Habituellement, je le disais un petit peu en intro, quand on parle de nutrition, on associe cela davantage à la santé humaine. Dans ce livre-là, vous abordez davantage la santé de la planète, ce qui est déjà plutôt novateur. Est-ce qu'on peut allier les deux, santé humaine, santé de l'environnement?
Non seulement on peut les allier, mais c'est indispensable d'allier la santé des humains à la santé de la planète. Et c'est de ça dont je me suis rendu compte le plus en faisant mes recherches pour le livre. C'est que quand j'étais à l'université, donc pendant mon bac en nutrition, on a beaucoup parlé de l'impact des aliments sur la santé humaine, bien sûr, et la très grande majorité des cours sont là-dessus. Mais jamais on a abordé l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement. Et c'est en lisant un essai d'Élise Desaulniers qui s'appelle « Je mange avec ma tête » que j'ai vraiment eu le déclic et que là, j'ai commencé à voir que justement, les choix qu'on fait à chaque jour pour manger peuvent avoir un impact sur la biodiversité, sur l'émission de gaz à effet de serre, on gaspille beaucoup d'aliments, etc. Et donc, pour moi, c'était comme une claque au visage. Je me suis dit, comment est-ce que, comme nutritionniste, on peut se dire des spécialistes de l'alimentation si ce gros pan de l'alimentation n'a jamais été abordé dans nos cours?
Oui. D'entrée de jeu, dans le livre, vous parlez de l'alimentation durable, qui est, à mon sens, quelque chose dont on n'entend pas souvent parler. En quoi l'alimentation qu'on a en ce moment, nous, les êtres humains, n'est pas durable?
En fait, la définition la plus simple de l'alimentation durable, c'est un type d'alimentation où la santé humaine va allier la santé de la planète. Mmh. En ce moment, la raison pour laquelle notre système agroalimentaire n'est pas durable, c'est parce qu'on gaspille beaucoup d'aliments, on dépense plus d'énergie pour produire, transformer et transporter les aliments que ce qu'ils contiennent comme énergie eux-mêmes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher de l'énergie qui a été emmagasinée pendant des millions d'années, donc sous forme de pétrole. On utilise cette énergie-là, puis on va la dépenser très, très, très rapidement. Donc, c'est une énergie qui est non renouvelable. Et donc, sur le long terme, ça ne sera pas durable.
Mm-hmm. Justement, dans ce livre, vous proposez différents trucs, différents conseils pour changer tranquillement notre alimentation, qu'elle devienne plus durable. Plusieurs trucs, ça se retrouve, manger local, choisir la pêche durable, manger moins de viande, manger bio, moins transformé. Évidemment, on prend une bouchée à la fois aussi, j'imagine. On ne peut pas tout changer.
Bien, je pense que c'est un petit peu ça, le but du titre du livre, c'était de montrer que il existe des centaines, à peu près une centaine de trucs dans le livre. Et c'est des trucs pour le quotidien, mais même moi, je les fais pas tous les jours. C'est certain que je ne les applique pas tous. Et le but, justement, c'est que les lecteurs puissent en choisir un, deux, trois, voir est-ce que ça s'applique à mon quotidien, est-ce que je suis capable de l'appliquer à ma vie. Si je suis capable, tant mieux, je le fais. Mais si c'est trop difficile pour moi, bien, je peux en choisir un autre. Et le but, c'est jamais de changer du jour au lendemain, sinon ça ne va pas durer sur le long terme.
Et je pense aussi que pour changer des habitudes, parce que déjà, hein, on l'a souvent répété, l'alimentation, c'est quelque chose d'émotif. C'est lié souvent à notre enfance, au plaisir également. Changer, ça peut être difficile. Et pour changer, moi, je pense qu'il faut comprendre. Quand vous mentionnez ce qu'est la pêche durable, entre autres choses, on l'a déjà fait, nous, ensemble, Bernard, il y a de ça quelques temps. Quand on comprend tous les effets de la pêche, déjà, et qui n'est pas toujours durable, déjà, on peut avoir envie de se tourner vers un changement.
Bien, moi-même, c'est certain que c'est en prenant connaissance de ces différentes conséquences sur l'environnement que j'ai décidé de changer mon comportement. Donc, je me dis qu'il y en aura certainement d'autres qui voudront faire de même. Mais c'est certain que de connaître les conséquences de notre alimentation n'est pas suffisant. Et c'était la raison pour laquelle je voulais donner le plus de trucs pratiques et concrets pour le quotidien. Parce qu'on a beau dire, le meilleur exemple, quand on est nutritionniste, on dit toujours aux gens « mangez plus de fruits et de légumes ». Même si les gens savent que c'est bon pour la santé, ça ne veut pas dire qu'ils en mangent plus. Ce n'est pas suffisant, il faut donner des trucs pour qu'on soit capable d'appliquer ça au quotidien.
Bernard Lavallée, manger local au Québec. On va y aller, on va tenter d'aborder à peu près, on sait qu'on ne pourra pas, là, à peu près tous les chapitres, tous les trucs mentionnés. Bon, si l'on commence par le premier volet de votre livre qui est manger local, est-ce que c'est vraiment possible au Québec avec le climat qu'on a?
Pendant l'été, c'est possible de manger local en très grande partie. Je dirais qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas manger des aliments du Québec quand c'est l'été parce qu'ils sont frais, ils sont nutritifs, ils viennent de près. Donc, pour moi, c'est vraiment gagnant. Évidemment, l'hiver, c'est beaucoup plus difficile. Il reste quelques choix, qu'on parle de choux, de carottes, de navets, de patates, etc. Il y a quand même des choix locaux, mais personne n'a le goût de juste manger des pommes de terre pendant tout l'hiver. Et donc, on peut quand même se tourner vers des aliments qui viennent de loin et c'est correct comme ça. Mais c'est simplement que quand on a la chance de manger des aliments qui viennent de près, bien, pourquoi ne pas prendre cette chance-là?
Et si l'on fait un lien avec le sujet de votre livre, les avantages pour la planète de manger local?
Bien, c'est certain que le fait d'acheter des aliments qui viennent de près, il y a une moins grande émission de gaz à effet de serre qui est liée au transport des aliments. Les aliments, ici au Québec, ont voyagé entre 3500 et 5000 km avant d'arriver dans notre assiette. Oui. Donc, c'est certain que c'est associé à une émission de gaz à effet de serre à cause du transport.
Et bien sûr, je ne pense pas que vous l'abordez directement dans le livre, mais il y a un impact économique aussi à consommer local.
C'est certain que si, en ce moment, il y a un tiers seulement des aliments du panier québécois qui provient du Québec. Donc, c'est certain que si on se décide à acheter des aliments qui viennent de près, on va récolter de l'argent. S'il y a une statistique de la MAPAC, si je ne me trompe pas, qui disait que si chaque Québécois décidait de remplacer 20 $ par année, pas par semaine, par année d'achats, donc qui viennent de loin, par des achats qui viennent du Québec, en 5 ans, on récolterait 1 milliard de dollars dans l'économie. Donc, c'est non négligeable pour l'économie du Québec, c'est certain.
Et pour l'environnement. Maintenant, vous parlez aussi dans ce livre-là d'agriculture. Bien sûr, ça va de soi. Quand on parle d'alimentation, de nutrition, ça va avec ce que l'on fait pousser. L'agriculture, qui est peut-être plus mise de l'avant en ce moment, donc l'agriculture dite conventionnelle, a des impacts sur aussi la planète.
L'agriculture conventionnelle utilise des produits de synthèse comme des herbicides, des pesticides, utilise des engrais de synthèse et on sait maintenant que ces différents produits peuvent avoir un impact sur la biodiversité, sur différentes espèces. Il y a de la pollution dans les cours d'eau, dans les sols et dans l'air. Et donc, on sait que de se tourner vers une alimentation, vers une agriculture qui est biologique, ça améliore la biodiversité et ça diminue ces différents polluants dans l'environnement.
Encore là, ça devient un choix et aussi parfois un choix qui est économique, on le sait. On ne peut pas se le cacher, la nourriture dite bio coûte souvent plus cher, malheureusement.
Manger bio, c'est certain que ça coûte plus cher. Pendant l'été, on est capable de trouver des choix qui sont peut-être un petit peu moins dispendieux, mais c'est certain que oui, ça coûte plus cher, c'est un choix à faire. Cependant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut tout se tourner vers le bio à 100 % du jour au lendemain. Par exemple, dans mon livre, j'offre une liste des fruits et des légumes qui contiennent le plus de pesticides. Et donc, si on veut diminuer notre ingestion de pesticides, on peut choisir, par exemple, les trois premiers fruits ou légumes de cette liste-là et se dire, je vais acheter ces trois-là de façon biologique. Les autres, je vais continuer à les acheter de façon conventionnelle. Et déjà, je sais que je fais un pas pour l'environnement, mais je fais un pas pour peut-être ma santé ou du moins pour l'ingestion de pesticides.
Donc, et avec ce tableau-là, ça devient bien, bien plus concret et aisé de faire des choix aussi.
Exactement. C'est plus facile.
Vous parlez aussi qu'il pourrait être préférable de diminuer notre consommation de viande. Ça commence tranquillement à faire des petits... Vous parliez d'Élise Desauniers tout à l'heure, qui a publié des livres en ce sens et qui a déjà bougé pas mal de cartes. Mais encore là, souvent, la viande, c'est quelque chose d'un peu émotif. Si on aime en manger, on ne veut pas trop se restreindre à diminuer notre consommation. Encore là, ça peut être polluant, c'est pas de l'agriculture, mais en fait, c'est l'élevage. Oui, l'élevage de viande.
Bien, pour vous donner une idée, l'élevage des animaux sur la Terre émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des moyens de transport. Donc, avion, bateau, camion, auto. C'est la même émission de gaz à effet de serre. Okay. Donc, l'élevage, ça a un impact qui est non négligeable sur le réchauffement climatique. Et donc, manger moins de viande, c'est certain que ça a un impact qui est profitable à l'environnement, justement parce qu'on diminue cette émission de gaz à effet de serre, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et c'est bon aussi pour notre santé. Ça reste qu'il y a une panoplie d'études qui démontrent que les gens qui mangent moins de viande ou pas de viande du tout sont souvent en meilleure santé et ont moins de maladies chroniques comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, que ceux qui en consomment beaucoup. Donc, c'est un choix sensé de se tourner vers des sources de protéines qui sont végétales, comme les légumineuses, comme le tofu, de les découvrir. Encore une fois, je ne dis pas de devenir végétarien du jour au lendemain, mais d'essayer peut-être un jour par semaine. Il y a le lundi sans viande qui est devenu de plus en plus populaire au Québec. Bien, un jour par semaine, j'essaie une recette végétarienne et vous allez découvrir que non seulement c'est bon pour vous, pour votre santé, mais c'est bon au goût aussi. Et les légumineuses, ça peut faire partie de l'alimentation des omnivores. Là. C'est pas l'un ou l'autre. On peut en manger.
Votre livre n'en est pas un de livre de recettes, mais vous glissez quand même quelques recettes à l'intérieur. Et il y a une soupe de lentilles, justement.
Oui, exactement. Je voulais pas sortir un livre de recettes du tout. Il y en a quelques-unes parce que je pense que c'est impossible de parler d'alimentation sans quand même donner quelques recettes. Mais c'est Julie Aubé, une de mes collègues qui est nutritionniste, qui a développé toutes les recettes du livre.
Oui. Quand on parle d'élevage de viande aussi, je pense qu'on a parlé de gaz à effet de serre, l'effet de serre, mais il y a aussi l'eau, la consommation d'eau, je pense. Là, ça consomme énormément.
Oui, en fait, l'élevage est associé à une grande utilisation d'eau, mais en réalité, bon, je vais vous donner un exemple. Pour avoir un kilo de viande de bœuf, ça demande environ 15 000 litres d'eau, okay, qui a été associée à sa production. Mais la très grande majorité de ces litres d'eau-là n'ont pas été bu par l'animal, ils ont été mangés. Donc, c'est simplement parce qu'on a arrosé les champs pour faire la nourriture et on lui donne de la nourriture. Mais comme le bœuf n'est pas un animal qui est efficace pour absorber l'énergie des aliments, on doit lui donner beaucoup, beaucoup d'aliments pour qu'il finalement produise un petit peu de protéines. Et donc, c'est pour cette raison-là que c'est une production de protéines qui est peu efficace et qui devient polluante à cause vraiment du volume de nourriture qu'on doit leur donner.
On parle aussi dans ce livre des produits transformés qui se retrouvent de plus en plus sur nos tablettes, probablement associés à ce rythme de vie qui est hyper effréné. Et pour les familles, ça devient peut-être plus aisé de consommer déjà des produits tout faits. C'est souvent lié à de l'emballage, trop d'emballage finalement, Bernard.
C'est certain que l'emballage de un peu devient des déchets, surtout si c'est pas recyclable ou peu importe, mais également tout le processus de transformation. On ne sait pas nécessairement d'où proviennent les aliments, on ne sait pas comment ils ont été produits. Et donc, de se tourner vers des aliments qui sont le moins transformés possible, pour moi, c'est comme une des premières briques qu'on peut mettre pour se bâtir une alimentation qui est plus durable, donc de recommencer à cuisiner parce qu'à ce moment-là, on se questionne sur les choix qu'on fait, on se questionne sur les aliments qu'on choisit et de se dissocier un petit peu de l'industrie. Et encore une fois, on peut continuer à acheter des aliments transformés, mais d'essayer tranquillement de s'en dissocier, d'acheter des aliments le moins transformés possible, on va savoir ce qu'on met vraiment dans notre assiette.
Et lorsque l'on cuisine, on se pose des questions aussi sur la provenance de nos aliments. Ça peut nous donner envie de faire plus de jardinage. Et vous en parlez aussi, Bernard, en ville, c'est quoi les trucs pour quand même faire un tout petit peu de jardinage?
Moi, j'habitais à Laval dans mon adolescence et j'avais un potager chez mes parents. Je trippe, j'adore faire pousser des plantes. Dans mon petit appart à Montréal, j'ai sur le bord de ma fenêtre, je fais pousser des fines herbes, je fais des germinations et des pousses. Ça prend vraiment pas beaucoup d'espace, donc c'est simplement de prendre, vous allez dans n'importe quel magasin d'aliments naturels ou peu importe, vous pouvez trouver des semences pour faire des germinations dans un germoir. Je fais pousser des champignons aussi à partir du marc de café.
Ah, ouais.
Tout ça, c'est expliqué dans le livre. Donc, comment être capable de faire pousser des pleurotes chez soi. Ça demande vraiment pas beaucoup d'espace. C'est facile à faire. Et c'est, pour moi, ce sont des belles expériences qu'on peut faire avec les enfants. Mais même moi, comme adulte, j'adore faire ça. Et c'est toujours fascinant de voir ça pousser après de le manger et de le cuisiner.
Beaucoup de gratification aussi. Un volet, il reste peu de temps, un volet que je voulais absolument aborder avec vous parce que, en ce sens, je trouve le livre novateur, c'est ces chapitres-là où vous abordez le manger sauvage, oui, mais là aussi cuisiner des parties d'aliments négligés, cuisiner des aliments fatigués, vous donner des recettes aussi par chance. Comment on peut inciter? Déjà, manger du brocoli, c'est pas évident pour les enfants notamment, mais manger du pied de brocoli ou des feuilles de chou fanées, c'est encore moins attirant. Comment on peut amener le grand public à avoir envie de consommer ces aliments-là?
Bien, je vous dirais que le livre s'adresse à beaucoup de gens. Donc, il y a des trucs qui peuvent être plus faciles pour certains, des trucs qui peuvent être plus difficiles pour d'autres. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas tout le monde qui peut appliquer tous ces trucs-là nécessairement. Par contre, dans le cas des aliments fatigués, c'est facile de transformer des pieds de brocoli ou bien des tiges de kale en potage. Je donne une recette justement développée par Julie Aubé, encore une fois, qui est super délicieuse, qui est facile et rapide à faire, qui est nutritive. Et en plus, c'est une façon d'économiser beaucoup parce qu'on fait plus avec ce qu'on a acheté. On double quasiment. Là, si on jette tout le temps les pieds de brocoli, là, ça fait quasiment le double du poids. Et donc, pour moi, je pense que d'avoir des recettes pour être capable de rendre ça savoureux, c'est un incitatif peut-être.
Et ça évite le gaspillage.
Certainement.
Oui. Mm-hmm. Il y a une recette d'ailleurs de sirop de cœur de pomme.
Mais pour moi, justement, c'est une façon de rendre sexy des cœurs de pomme. Personne n'aurait cru qu'on puisse les manger, mais en les faisant infuser dans de l'eau avec du sucre, on fait un sirop et après on peut faire des cocktails qu'on sert à nos amis. Moi, je les ai servis dans plein de soupers. Tout le monde a adoré.
Et c'est des aliments que l'on croit jetables, en fait souvent, qui se retrouvent à la poubelle, mais qui peuvent être réutilisés.
Voilà.
Bien sûr, on n'a pas tout abordé. Il y a aussi tout un chapitre sur comment mieux utiliser son frigo pour une meilleure conservation des aliments. Manger plus sauvage, réapproprier des aliments qu'on ne pense même pas pouvoir consommer. Tout ça, c'est dans votre livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois », Bernard Lavallée. Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes aussi le nutritionniste urbain, nutritionnisteurbain.ca. Et je vous souhaite encore du très, très beau, très, très beau succès avec ce livre-là.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Marie Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététiste, auteure conférencière et vous êtes là pour nous parler d'une assez bonne nouvelle. En fait, c'est une étude de l'Université Laval qui a été publiée l'automne dernier et qui confirmait que le sirop d'érable, ça a des propriétés bénéfiques pour la santé. C'est pas pour nous déplaire, ça.
Non. En fait, on fait des découvertes extraordinaires depuis quelques années, en fait. Le sirop d'érable, c'est pas seulement bon au goût, mais ça a vraiment une composition qui est hors de l'ordinaire et ça a des bénéfices santé vraiment extraordinaires, je dirais. Moi, je suis une inconditionnelle de l'érable, pas besoin de vous dire. J'en ai en permanence dans le garde-manger. Je fais mon pèlerinage annuel à la cabane à sucre chaque printemps. J'adore l'érable. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a différentes variétés d'abord de sirop d'érable sur le marché. Au Québec, on a 4 catégories de sirop. Il y a peut-être des mots comme extra clair, clair, médium, ambré que vous avez vu sur les étiquettes. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que lorsqu'on achète un sirop, là, toutes ces catégories-là sont aussi bonnes les unes que les autres. Il s'agit dans tous les cas de sirop d'érable qui est 100% pur. Ces catégories-là vont être simplement basées sur la couleur et sur la saveur du sirop.
Okay.
Donc, on peut se demander pourquoi on choisirait une catégorie plus que l'autre. Je dirais que c'est vraiment une question de goût. Un sirop qui va être extra clair, qui va être clair, va avoir une saveur plus légère, une couleur plus pâle. Donc, on peut choisir ce sirop-là pour arroser les crêpes, mettre sur la crème glacée, mais on peut préférer un sirop qui est médium ou ambré pour faire des sauces ou encore des pâtisseries parce que ces sirops-là sont plus foncés, plus goûteux. Donc, encore une fois, ce sont tous de bons choix selon notre goût, selon ce qu'on veut en faire. Donc, quand on a acheté un produit, on n'a pas à se préoccuper outre mesure de ces catégories-là. Le prix est le même. Vous savez qu'il y a environ 20% aussi du sirop d'érable qui est produit au Québec qui est certifié bio.
Ah oui?
Et oui, et il y a même du sirop certifié cachère. Alors, il y en a pour tous les goûts.
Oui, pour toutes les demandes, bien sûr. Le Québec, d'ailleurs, qui produit 75% de la production mondiale de sirop d'érable.
Ah oui.
Le 25% qui reste, là, il est où, Marie Breton? Je ne veux pas vous poser une colle, là, mais c'était une question que je me demandais aux États-Unis, peut-être.
La production?
Oui, ben parce qu'on n'en produit pas 100% comme j'aurais pu croire dès le départ.
Non, c'est au Vermont, je crois. C'est aux États-Unis, mais je pense que c'est principalement le Vermont qui est un producteur de sirop.
Ah oui, OK. Mm-hmm. Est-ce qu'il peut y avoir des pesticides? On parlait de sirop d'érable bio. Est-ce qu'il peut y avoir des pesticides dans le sirop d'érable?
Écoutez, il y a des normes au niveau de la classification, des normes de qualité. Je ne peux pas vous dire ce que ces normes, ce qu'on vérifie au niveau des pesticides, mais tout ce qui est vendu sur le marché, qui est produit au Québec, doit rencontrer des normes de certification. Ils sont aussi salubres l'une ou l'autre, ces catégories-là. Donc, en principe, on ne devrait pas retrouver beaucoup de ces je ne peux pas vous répondre. En fait, on ne devrait pas retrouver beaucoup de ces substances-là.
Okay.
Tout le sirop qui est produit au Québec, vous allez retrouver le mot « sirop pro » hein, sur les étiquettes de ce sirop-là. C'est vraiment une garantie ça, que le sirop que vous achetez il est authentique, il est salubre, qu'il respecte les normes de classification. C'est une garantie de saveur, c'est une garantie de pureté. Donc, sans doute qu'on va considérer aussi la présence de résidus, mais je ne saurais pas vous en dire davantage.
Et c'est la certification que ce n'est pas du sirop de poteau.
Voilà.
Maintenant, Marie Breton, qu'est-ce que l'on retrouve dans le sirop d'érable? À part du sucre, bien sûr.
Oui, à part le sucre. Bon, dans une portion, disons un quart de tasse ou 4 cuillères à table de sirop, on va combler 100% de nos besoins quotidiens en manganèse, 37% en riboflavine, 18% en zinc, 7% en magnésium, 5% en calcium, en potassium. Donc, il y a vraiment une quantité qui est appréciable de différentes vitamines et minéraux. Mais au-delà de ces substances-là, on a découvert que le sirop d'érable renferme plus de 63 substances qu'on appelle des polyphénols, dont 5 sont vraiment uniques au sirop d'érable. Et ces polyphénols, en fait, ce sont des substances antioxydantes. Ce sont les mêmes substances bienfaisantes que celles qu'on retrouve dans les bleuets, dans le thé vert, dans le vin rouge. Et en plus, on a découvert récemment que le sirop d'érable contenait une quantité importante de phytohormones. Et ça, ce serait des composés qui seraient bénéfiques dans la prévention et le contrôle du diabète. Donc, c'est vraiment la combinaison de toutes ces substances-là qui fait du sirop d'érable un produit qui est unique, en plus, bien sûr, d'être 100% naturel.
Donc, pour les gens diabétiques, ça peut être une option intéressante de se tourner vers le sirop d'érable.
Oui, ça peut être une option intéressante. On pense souvent d'abord que les personnes diabétiques ne doivent pas consommer de sucre. C'est tout à fait faux. Elles peuvent consommer des sucres, peu importe leur source, en quantité modérée dans la mesure où elles vont en tenir compte dans leur programme d'alimentation. En fait, ce qui est important pour une personne diabétique, c'est que les sucres qu'elle mange soient pris en compte dans le total des glucides qui sont prévus à un repas ou à une collation. Mais concernant le sirop d'érable et le diabète, on a découvert récemment que le sirop d'érable contient donc une quantité importante d'un type particulier de substance, comme je disais tantôt, qui s'appelle les phytohormones. Et les chercheurs croient que ces phytohormones-là stimuleraient la libération de l'insuline par les cellules du pancréas et favoriseraient l'absorption des sucres par les muscles. Une autre trouvaille intéressante aussi, et ça, ce sont des chercheurs de l'Université Laval à Québec et des chercheurs également de l'Université de Tokyo au Japon qui ont travaillé là-dessus.
Ah, oui.
En fait, ce qu'ils ont fait, oui, les Japonais s'intéressent beaucoup au sirop d'érable, à tous ces produits comme ça qui ont une valeur ajoutée. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont comparé le sirop d'érable à d'autres agents sucrants comme le sucre blanc, le miel, la mélasse, le sirop de riz brun, le sirop de maïs. Ils ont fait des recherches sur les animaux de laboratoire et ils ont montré que le sirop d'érable permettait de mieux contrôler le taux de sucre sanguin, c'est-à-dire la glycémie, en plus de réduire la résistance à l'insuline. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les personnes diabétiques. Mais évidemment, il ne faudrait pas penser qu'on va mieux contrôler son diabète en buvant du sirop d'érable.
Mais non,
c'est pas un
non.
médicament. Ce que ça veut dire, c'est que le sirop d'érable, c'est une option qui est avantageuse pour les personnes diabétiques lorsqu'on le compare aux autres agents sucrants comme le sucre blanc, la cassonade, le sirop de maïs, le miel.
Marie Breton, on peut lire également sur le site j'aime-l'érable.ca que le sirop d'érable pourrait être profitable aux sportifs et de quelle manière ça peut l'être?
Bien, on sait que les glucides, ce sont les sucres, la famille des sucres. C'est vraiment les glucides, le carburant par excellence lorsqu'on fait du sport. C'est dans les glucides que les muscles au travail vont puiser leur énergie. En plus des glucides, évidemment, les sportifs, ils ont besoin de plus de calories, ils ont besoin de plus de nutriments. Donc, c'est important pour eux de faire de bons choix alimentaires. Et l'avantage du sirop d'érable, c'est que, un, il apporte des glucides qu'on appelle simples, donc des glucides qui sont rapides à absorber et à transformer en énergie. Il va fournir aussi une quantité appréciable de minéraux comme le manganèse et le zinc. Et ça, ce sont des minéraux qui favorisent la récupération musculaire après l'exercice. Il y a aussi du potassium dans le sirop d'érable et le potassium, c'est un électrolyte qui permet de remplacer celui qu'on perd dans la sueur lorsqu'on a chaud. Et aussi dans le sirop, ben, comme je disais, il y a des antioxydants et les antioxydants, c'est important pour protéger les cellules lorsqu'elles sont soumises à un effort physique. Donc, en somme, le sirop d'érable, encore une fois, il y a une longueur d'avance par rapport aux autres agents sucrants. Ceci dit, encore une fois, il ne va pas améliorer nos performances sportives si on se met à en abuser. Hein. Il n'y a aucun aliment qui va améliorer nos performances sportives à lui seul, sauf qu'il va plutôt favoriser une bonne performance physique dans la mesure où on va le consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Donc, je peux m'en servir pour faire des barres énergétiques, des muscles.
Ou en mettre une petite goutte dans la bouteille d'eau, évidemment.
Oui.
Marie Breton, je vous interromps ici parce qu'il nous reste plus de temps. Je vous souhaite un très, très bon pèlerinage à travers les cabanes à sucre du Québec. Et merci beaucoup pour ces lumières en ce qui a trait aux bénéfices du sirop d'érable. Merci.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Marianne Paquette au micro. On s'en va se sucrer le bec, nous, illico presto, parce qu'on connaît maintenant tous les bénéfices. À demain. Portez-vous bien. Bye-bye.